Chapitre 8. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demande Guillaume après un moment de réflexion. Doudou, occupé à remettre de l'ordre dans la pièce, redresser la chaise tombée, ranger la console et le bocal, repousser le bureau à sa place initiale, se gratte la tête avec perplexité. Faudrait s'asseoir et délibérer. Suggestion acceptée à l'unanimité. Il s'installe sous les quatre en tailleur, les uns en face des autres sur le tapis. Le hockey d'Ida s'est calmé. Mais maintenant, elle fait craquer les phalanges des mains qui lui servent de pied. C'est très énervant. Adi fredonne. Elle est vraiment jolie. Sous la casquette à l'envers, sa tignasse crépue, tire-bouchonne et des tortillons étirés balaient son émutin. Guillaume se ronge les ongles. Décidément, c'est devenu une manie. En se demandant quelle tête vont faire ses parents s'ils rentrent et trouvent tout ce monde à la maison. Surtout Ida, qui n'est pas présentable. Doudou, lui, se creuse la cervelle. « Je ne vois qu'une seule solution, » finit-il par décréter. Tous les regards se tournent vers lui, sauf ceux d'Ida, bien entendu, qui vont à l'opposé. Mais ça ne l'empêche pas d'être très attentif. « Laquelle ? » demande-t-il tous en même temps. « Que Guillaume devienne écrivain. Et pourquoi pas cosmonaute ou explorateur tant que tu y es, bondit l'intéressé ?»« C'est pas si bête, pourtant, » intervint Adi. « Suffit, pof, d'un peu d'imagination et, crac, d'orthographe. »« L'imagination, tu n'en manques pas, » poursuit le Black. « L'orthographe, ça s'apprend. Suffit de suivre les cours de grammaire et d'aller voir de temps en temps dans le dictionnaire. Quant à la ponctuation... Ah, gloups, pouet, la ponctuation, se désole Ida en regardant ses membres inversés. Elle vient toute seule, à condition d'être attentif au rythme de ses phrases. Adi applaudit. Le rythme, ça la connaît. Les mots et les notes, c'est pareil. Il faut que ça balance et pas de travers, évidemment, avec des silences au bon endroit pour respirer. Guillaume se bouche les oreilles. « Arrêtez tous les deux, j'ai l'impression d'entendre Monsieur Pénac. De toute façon, même si je voulais, je ne pourrais pas. J'ai pas de grimoire. » Son visage s'altère, il regarde ses compagnons les uns après les autres. « Et pourtant, je vous jure que pour retrouver Ida, je serais prêt à tous les efforts. Si j'étais sûr que ça me la ramène, j'apprendrais à écrire comme il faut. Et des dictées, j'en ferais 20 par jour. »« Courage, mon gars, rien n'est perdu !» s'exclame Doudou. « Ton grimoire, à nous quatre, on mettra la main dessus. » Il se tourne vers les filles. « Vous marchez avec nous, c'est d'accord, Nana ? On a vraiment besoin de deux petites mômes sympas. »« Yo !
Quick, bloc !
Alors, on y va ?» Au même instant. « Guillaume, nous sommes rentrés !» fait la voix de maman venant du vestibule. Guillaume pâlit. « Flûte, ma mère, faut pas qu'elle nous trouve ici. »« Pourquoi ?» s'étonne Doudou. « Elle ne supporte pas que je ramène du monde à la maison quand elle n'est pas là. Un copain, c'est le maximum. » Kida rigole. « C'est encore pire que lorsqu'elle grince. »
T'en fais pas, Bouygues Padabam, Adi et moi, on est invisibles.
Invisibles ? S'écrient les deux garçons en cœur. Il n'y a que les rêveurs qui peuvent nous voir. Tes parents sont-ils des rêveurs, Guillaume ?
Je ne crois pas.
Un pas énergique se rapproche, la poignée tourne. Nous serons fixés dans un instant, dit Doudou.
Tout s'est bien passé aujourd'hui, demande maman, ouvrant la porte.
Guillaume n'emmène pas large. Adi et Ida se foutent du coude en gloussant. Enfin, le coude d'Adi pousse le genou d'Ida.
« Tiens, bonjour Doudou, » dit maman. Tu es venu tenir compagnie à Guillaume ?»«
Il m'a apporté mes devoirs, » articule Guillaume avec difficulté. « Je te remercie, mon grand. Maintenant, il faut que tu rentres chez toi, car nous allons nous mettre à table. » Elle s'en va. Docilement, Doudou récupère son blouson et l'enfile. Les jambes coupées par l'émotion, Guillaume s'est laissé choir sur sa chaise.
« Alors, qu'est-ce que je disais ?» s'exclame Adi.
« Ida et moi, on n'existe pas pour elle. Faut pas oublier qu'on est des fantasmes tout de même. » Et fantasmer, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quelque chose tracasse Guillaume. Si elle était invisible, pourquoi Ida a-t-elle eu si peur que le gardien la voie dans la bibliothèque? Elle a eu peur qu'il te voie, c'est tout, Blouxpomme, précise Ida. C'est pour ça qu'elle t'a clonk entraîné dehors. À propos de bibliothèque, on y va cette nuit, suggère Doudou? Les deux filles hochent affirmativement la tête.
Bien sûr, s'écrie Guillaume. Tu pourras sortir?
Je me débrouillerai. Tu viens, Adi? À minuit devant la petite porte. Ok. Tandis que les deux rappeurs s'éloignent bras dessus, bras dessous, Guillaume jette un coup d'œil par-dessus son épaule sur la compagne qui lui reste. Installée sur le lit, Ida se cure les ongles. Ceux des mains ou des pieds, bref, un peu les deux. Un fantasme aussi moche, je m'en serais bien passé, soupire le garçon, en se dirigeant vers la salle à manger. Chapitre 9. Pour une fois, Guillaume, le repas terminé, ne file pas s'enfermer dans sa chambre. Il s'installe avec ses parents dans le salon et regarde le journal télévisé. « Maman s'étonne. Tu nous fais l'honneur de ta compagnie ce soir ?» Le garçon n'en répond pas. Comment avouer à ses parents qu'il préfère encore les infos, plutôt déprimantes en général, au tête-à-tête avec un fantasme raté? Vers 10h30, après le film, papa éteint le poste. « Oli, dit maman, qui baille depuis un moment déjà. » Elle a l'air épuisée, et papa ne vaut guère mieux. Une chance. Ils ne vont pas tarder à s'endormir et la voix sera libre. Guillaume se réjouit furtivement de ce que ses parents ne soient pas des couche-tards. Puis il regagne son antre, à contre-cœur. Ida n'a pas perdu son temps. Durant toute la soirée, elle s'est exercée à marcher sur les mains. Enfin, sur les pieds. Les chaussures à talons sont donc à nouveau posées sur le sol. Pour le reste, Ida est à l'envers, ce qui ne change pas grand-chose à sa curieuse apparence. Afin que ses jupes ne lui retombent pas sur le visage, elle a pris soin de les attacher à ses poignets avec une ceinture à la manière d'un parapluie fermé. Ses grands cheveux, par contre, balayent le tapis. Elle trébuche quelquefois dedans, mais en prend son parti avec sérénité. « Je commençais à avoir bric des ampoules dans les paumes, crac bric » explique-t-elle. Pour passer le temps en attendant le rendez-vous, ils font une partie de petits chevaux qui Ida gagne avec beaucoup plus de mérite, avec d'autant plus de mérite qu'elle voit le jeu inversé. Puis vers minuit moins le quart, « Allons-y, dit Guillaume !» Ida traverse l'appartement et inspecte le palier. Être invisible présente de sérieux avantages lorsqu'on se met dans l'illégalité. Aucun danger à l'horizon, ni parents, ni voisins pour surprendre le fugueur. En avant! Quand ils arrivent à la bibliothèque, les deux autres sont déjà là, et danse sur le parvis, comme dans le texte de Doudou. Vous trouvez que c'est le moment, s'indigne Guillaume? C'est toujours le moment, mon pote, pour la musique, que ce soit à Paris, New York ou en Afrique, répond sentencieusement Doudou. L'instant d'après, l'expédition s'introduit dans le bâtiment. Pas de bruit, surtout, recommande Guillaume en marchant sur la pointe des pieds. Dans le couloir, les deux filles ne peuvent s'empêcher de jouer à la marelle en se bousculant. Leurs rires, heureusement, ne sont audibles que par les garçons. Arrivés dans la grande salle, « Comment on procède ?» demande Doudou. Tous les regards se tournent vers Ida. « J'en sais rien, moi, Bouic Ploc !» proteste Ida. « Débrouillez-vous !» Elle a décidé de faire sa mauvaise tête. Un caractère ronchon va très bien avec son physique. « Même si tu es raté, tu n'as pas perdu la mémoire, je suppose, » dit Guillaume. « Alors mets-y un peu de bonne volonté, sinon tu ne redeviendras jamais normal. » « Alice au pays des merveilles, craque !» grogne Ida à contre-cœur. « Quoi, Alice au pays des merveilles ?» Quand tu m'as surprise l'autre soir dans la bibliothèque, j'étais en train de chercher Alice au pays des merveilles. Poum, patapoum. Il paraît que c'est un des livres clés de la littérature pour jeunes. Et je ne l'ai, claque, jamais lu. À cause du jupon, commande Guillaume pour les deux autres. Elle l'a échangé. Quel jupon, demande Adi. Celui que, boum, je porte. Adi écarte la cape en tortillée autour des bras jambes d'Ida, découvrant de ravissants fourfous roses. Super, s'exclame-t-elle. On dirait un tutu de ballerine, tu me le prêteras ? Doudou inspecte déjà les rayonnages où les ouvrages sont classés par auteur. C'est, Camus, Carco, ah, Carole, c'est ici. Il sort un livre à la reliure pourpre et or, l'ouvre. Oh ! Font-ils tous les quatre. Les couvertures des livres sont des portes qui donnent non sur des textes arides, comme on le croit souvent, mais sur de fabuleux univers. Celui-ci n'est autre qu'un magnifique jardin, plein de fleurs et de fontaines. Des chants d'oiseaux emplissent la bibliothèque, ainsi que le parfum des parterres qui se déploie jusqu'à l'horizon. « Quelle merveille !» s'exclame Adi, joignant les mains. Guillaume n'en revient pas. « On peut rentrer là-dedans ? Ça ne coûte rien d'essayer. » Doudou saute à pieds joints dans le jardin, suivi par son inséparable Adi. « Hip hop, par ici, mes amis !» crie-t-il aux deux autres qui hésitent encore. « Yippie ! On est tombé dans un vrai paradis !» Déjà, Adi tourbillonne dans le gazon. Guillaume file un coup de main à Ida, handicapé par sa position d'acrobate, et d'un bond ils rejoignent leurs copains. « Incroyable !» murmure Guillaume. « Je n'aurais jamais cru que c'était si facile de rentrer dans un livre. »« Regardez, il y a des gens !» souffle Adi. À quelques mètres se dresse un grand rosier couvert de roses blanches. Trois jardiniers armés de pinceaux s'affairent à les peindre en rouge. Intrigués, les adolescents s'approchent. Tout à leur curieux labeur, les jardiniers ne remarquent pas leur présence. « Fais attention, le 5, tu m'éclabousses de peinture !» s'exclame l'un d'eux d'un air furieux. « Ce n'est pas ma faute, » réplique son confrère. « C'est le 7 qui m'a poussé le coude. » Le 7 se rebiffe aussitôt. « Tu accuses toujours les autres à tort et à travers. »« Toi, tu ferais mieux de te taire !» lui jette le 5. « Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'avoir la tête tranchée. »« Pourquoi peignez-vous ces fleurs ?» demanda Dick, que son statut de fantasme rend plus audacieuse que ses camarades. Les jardiniers se retournent. Ils n'ont pas d'épaisseur, ce sont des cartes à jouer, le 2, le 5 et le 7 de pique.
Je me suis trompée de couleur en plantant mes rosiers, avoue le 2. Si la reine s'en aperçoit, elle me fera décapiter. Le 7 lance un regard suspicieux aux nouveaux arrivants. Vous n'êtes pas les premiers à nous poser cette question, signale-t-il. Je trouve ça bizarre. Ne seriez-vous pas des espions du gouvernement par hasard? Il y a un quart d'heure déjà, une petite fille blonde. Mais il est interrompu par le 5, qui surveillait les alentours d'un air inquiet et s'écrie à tue-tête « La reine ! La reine !» Sans hésiter, les trois jardiniers se jettent à plat ventre sur le sol, de sorte qu'il devient impossible de les identifier. « C'est vous qui l'avez averti, n'est-ce pas ?» accuse le 7, mais sa voix se perd dans le gazon. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchote Guillaume, pas très rassuré. Doudou n'a pas le temps de lui répondre. Un discordant brouhaha s'élève non loin d'eux et l'escorte royale apparaît. Un vrai cortège de carnaval. D'abord viennent 10 soldats, porteurs de masses d'armes en forme de trèfle. Ils sont, comme les jardiniers, plats et rectangulaires, leurs mains et leurs pieds fixés aux quatre angles. Puis, c'est le tour des as, en habits constellés de diamants. Derrière eux défilent, se tenant la main deux par deux, les 10 enfants royaux. Ils sautillent et sont ornés de cœurs de la tête aux pieds. Les invités de marque les suivent, souverains pour la plupart, ainsi qu'un lapin blanc pourvu d'une chaîne de montre, qui parle tout seul de manière craintive et précipitée. Enfin, précédé du valet de cœur qui porte la couronne sur un coussin de velours, s'avance le roi et la reine de cœur. Guillaume répète sa question. « Évite de se faire remarquer, » dit Asie, pleine de bon sens. « Et on salue poliment, » ajoute Doudou, qui en oublie de marquer la mesure. Pour s'adresser à une reine, « Blouk, quick, comment faut-il dire ?» se renseigne Ida. « Madame, votre tchak-tchak seigneurie ?» Seigneurie, votre majesté? La reine de cœur est vraiment une vilaine bonne femme. Non seulement elle doit peser plus de 100 kilos et se dandine comme un éléphant, mais ses traits reflètent une méchanceté peu commune. Gros nez rouge, petits yeux cruels, dents pointues prêtes à mordre tout ce qui bouge. On ne peut s'empêcher de la détester d'office. À côté d'elle, Ida serait presque jolie. Justement, la reine vient de la remarquer. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclame-t-elle en fronçant les sourcils. Tous les yeux de l'assistance se tournent vers la jeune fille. « Voulez-vous bien pour mettre à l'endroit ?» lui intime la reine. « Ce n'est pas une tenue pour une personne convenable. » Ida est bien embarrassée. Elle ne s'attendait certes pas à ce que l'on critique son physique, surtout avec autant de hargne. « Je ne peux pas, bof pouic prac » répond-elle de sa voix de crécelle. « Je suis bourrée de ch'toum, faute d'orthographe. » Le faciès de la reine, déjà coloré par nature, devient cramoisi. « Vous refusez d'obéir, glapit-elle ? Vous osez refuser d'obéir ?» Et vous vous moquez de moi en produisant des bruits incongrus ? Se tournant vers sa garde, elle ordonne. On lui coupe la tête ! Un grand silence suit la sentence. Guillaume réagit le premier. Vous êtes dingue ! S'exclame-t-il, faisant front à la mégère. Suffoquée par tant d'audace, celle-ci fulmine. La férocité déforme ses traits déjà hideux. De la fumée lui sort des narines. Avec un angoissant automatisme de disque rayé, elle braille. Coupez-lui la tête à celui-là ! Elle montre de son gros doigt bagué le reste de la troupe. « Et à celui-là ! Et à celle-là ! Décapitez-les tous !» Leurs armes en avant, les 10 soldats se précipitent. « Ça sent mauvais, les copains, par ici. Si on ne fait pas gaffe, paf, on sera raccourcis !» s'exclame Doudou, qui n'a pas perdu son sang-froid. Il attrape Asie par le bras et jette à Guillaume. « Filons, camarade !» Guillaume ne se le fait pas répéter. Entraînant Ida, il prend lui aussi ses jambes à son cou, sous le nez de la garde médusée. « Majesté, il se sauve, il triche, il ne joue pas le jeu. Qu'on leur coupe la tête ! Qu'on leur coupe la tête !» Le jardin est bordé par une forêt dans laquelle les fuyards s'engouffrent. Hors d'haleine, ils se laissent tomber par terre. Tandis que les trois autres récupèrent, Doudou, caché derrière un taillis, observe de loin le cortège en effervescence, dont les rumeurs lui parviennent indistinctement. Personne n'a songé à les suivre, mais la colère de la reine est retournée contre les trois jardiniers, qui maintenant, debout, tremblent de tous leurs membres. Passant ironiquement l'index sur son propre cou, l'horrible femme mime l'exécution. Et malgré la distance, l'ordre hystérique parvient aux oreilles des adolescents, portés par le zéphyr. « Qu'on leur coupe la tête ! Qu'on leur coupe la tête ! Ils sont tous fous ici !» s'exclame Guillaume. « Et dangereux !» renchérit Adi. Ida surtout est en colère. Les reproches de la reine lui restent en travers de la gorge. « Si je me retrouve un jour en face de cette punaise, quick-clonk, je ferai plein de fautes en écrivant son nom. » Je mettrai reine, ou encore mieux, reine. On verra à quoi elle ressemblera alors. Quick, padabam! On explore la forêt, propose Adi qui ne tient pas en place. Elle a déjà commencé à fureter, à repérer les plantes de myrtille qu'elle déguste par poignée. Les autres ne se vont pas prier pour l'imiter.
Heureusement qu'il y a quand même des bonnes choses dans ce livre, dit Guillaume, la bouche pleine. Sinon, je regretterais d'être venu. Je te signale, Agaga Bloom, que tu as une mission à remplir, lui rappelle Ida. Le grimoire de ce Gling ne se trouvera pas tout seul. Et t'as intérêt à te grouiller, Dougoudoum. J'en ai vraiment marre, Tchouk-Tchouk, de ressembler à n'importe quoi. Tandis qu'elle parle, ses yeux tressautent dans tous les sens à une vertigineuse rapidité. S'ils se décrochaient et jaillissaient de leurs orbites pour tournoyer comme des comètes dans l'espace, cela n'étonnerait personne.